Radio G.
Comme on n'était pas tout à fait frais, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Non, mais quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
On fait le pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans ce studio pour une nouvelle émission de Caméra Subjective, le magazine de cinéma de Radio G. Ce soir, dans ce studio, un quintet de voix féminines, plus ou moins jeunes. Nous avons en effet le plaisir d'accueillir avec nous deux chroniqueuses en herbe, Lola et Zoé, qui travaillent sur les médias avec leur classe. Nous leur avons proposé de venir ce soir partager une expérience de studio avec nous et avec vous. Bonsoir Lola.
Bonsoir.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir.
Et puis d'autres voix plus mûres, excusez-moi de le dire, quoique. Bonsoir Lisa.
Bonsoir.
Et bonsoir Sandra.
Bonsoir Margot, bonsoir tout le monde.
Alors ce soir, nous avons le plaisir de vous proposer une émission riche en voix, vous l'avez entendu, mais aussi en thématiques. En seconde partie de l'émission, nous évoquerons les films pour la jeunesse, avec une recommandation spéciale de Lola et Zoé et un quiz de Sandra.
Pour commencer, Margot, tu nous proposes de revenir sur la bonne santé du cinéma espagnol avec un entretien que tu as enregistré la semaine dernière avec Madame Martinez Vasseur, qui est directrice du Festival du cinéma espagnol de Nantes.
Bonjour Madame Martinez Vasseur.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de nous avoir sollicité. C'est la première fois qu'on intervient sur votre radio. On est content de le faire.
Alors, vous êtes professeur en histoire et civilisation de l'Espagne contemporaine dans le département d'études hispaniques de l'Université de Nantes. Mmh. Et vous êtes surtout la directrice du Festival du cinéma espagnol de Nantes, dont la 32e édition s'est achevée le 2 avril. Alors, oui, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots votre festival? Qu'est-ce qui, par exemple, est à l'origine de sa création? Quels objectifs se fixent-ils?
Alors, donc, pour faire court, puisqu'il y a un ouvrage qui est paru l'année dernière sur les 30 ans du festival, il est né à l'université sous une forme de ciné-club, donc... On passait des films dans un amphithéâtre et puis des gens de l'extérieur de l'université venaient assister à ces projections. Ensuite, on nous a sollicité pour faire ces mêmes projections de façon professionnelle dans une salle à Nantes, le cinématographe tout d'abord, le 14 ans ensuite. Et puis donc le festival est resté toujours en lien avec l'université, mais s'est professionnalisé. Et aujourd'hui, c'est une structure, c'est une association loi 1901, avec une personne permanente à l'année, trois co-directeurs issus de l'université, les trois nous sommes enseignants en histoire. Et en même temps, pendant le festival, il y a une dizaine de personnes salariées. Donc, c'est un festival, je dirais, dont les ressources sont universitaires par la réflexion que nous menons sur l'Espagne et son cinéma. Mais en même temps, c'est un festival bien ancré sur le territoire, donc Nantes région, au plan national et surtout en Espagne, bien entendu, puisque la plupart des personnalités qui font le cinéma espagnol, dans la durée, sont venues à Nantes et viennent à Nantes avec plaisir.
Alors justement, pour parler dorénavant de l'édition 2023 qui vient de s'achever, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cette édition ?
Alors, c'est une édition qui s'est construite, comme pour tous les festivals, bien en amont. Donc, il est certain que ce regard que nous portons sur le cinéma en train de se faire, puisqu'on connaît les producteurs, les réalisateurs, etc., est arrivé, donc, je dirais presque à sa programmation finale, dès le mois de septembre 2022, lorsqu'après avoir vu des films espagnols en salle lors de nos séjours en Espagne, ou dans le cadre de festivals, notamment à Saint-Sébastien au mois de septembre, on a déjà eu cette impression qui venait un petit peu de plus loin qu'une année, qu'il y avait vraiment une excellente année, je dirais deux années, 21-22, dans le cinéma espagnol, tant par l'arrivée de nouveaux cinéastes, nouvelles cinéastes, masculins, féminins, et puis aussi par des nouvelles thématiques abordées, et puis je dirais aussi par une sorte d'éclosion et un élan qui se transmettait également dans la présence d'un public espagnol plus jeune dans les salles et qui était très réceptif à ce type de propositions que ces cinéastes faisaient.
Alors justement, vous avez intitulé l'édito que vous signez dans le dossier de presse du festival « Les lignes du présent » et c'est vraiment de ça dont on a envie de parler avec vous, parce qu'il semble en effet, alors j'ai envie de dire à nos yeux de béotiens et béotiennes, que justement ce dont vous parlez, un nouveau cinéma espagnol émerge, notamment par une présence importante des films espagnols dans les grands festivals internationaux dont vous avez commencé à parler, San Sebastián bien sûr, mais aussi le Festival de Cannes, le Festival de Berlin, etc. Oui. Alors quels sont selon vous les grands noms de cette nouvelle génération de cinéastes ?
Donc il est évident que quand on parle de grands noms, on a toujours tendance, quand on répond à ces questions, à réfléchir en disant « pourvu que je ne laisse personne dans les marges au titre du film d'ouverture ». Et ces énumérations sont toujours un peu risquées. Mais je dirais, si jamais les réalisateurs et réalisatrices espagnoles m'écoutent, que vraiment… Elles sont toutes et tous vraiment dans ces nouveaux regards. Donc, j'avais intitulé « Les lignes du présent », mais on avait loupé notre titre qui convenait, mais je me suis dit, on va pas aller dans le chauvinisme, puisque je pense que ceux qui sommes espagnols d'origine, nous ne sommes surtout pas chauvins. Donc, j'avais intitulé « La réjouissante vitalité du cinéma espagnol », c'est qu'on retrouvait dans l'édito. Alors, c'est vrai que jamais le cinéma espagnol c'est aussi bien exporté. Le terme, je l'aime pas beaucoup, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que je dirais que cette année, on a eu vraiment quelques moteurs qui ont donné à connaître ce qui s'est passé de l'autre côté des Pyrénées. Et je dirais tout d'abord, on a commencé par l'arrivée au mois de juillet de ce merveilleux film Asbestas de Solo Royen.
Oui, qui a eu le César du meilleur film étranger en France.
Bien sûr. Donc, on l'avait dit, c'est avoir ce César que d'autres réalisateurs ou acteurs espagnols ont eu auparavant, c'est pour l'Espagne toujours une reconnaissance parce que la France reste toujours la patrie sans drapeau du cinéma en général. Donc, cette reconnaissance est très importante. Donc, Rodrigo Solorroyen a ouvert déjà une brèche, Rodrigo Solorroyen, que je dis toujours, a été étudiant Erasmus à Nantes, en histoire, et nous l'avons connu en tant qu'étudiant. Il n'était pas notre étudiant personnellement, mais on voyait qu'il était toujours dans les salles, dans le festival, etc. Donc on a une relation d'admiration tout d'abord pour ce parcours qui aboutit à Asbestas, et je pense que le prochain va aussi nous surprendre. Et là, je pense que le mois de juillet a commencé par ce film-là, mais aussi par l'hommage que le Festival de La Rochelle a rendu aussi à un, je dirais, de nos cinéastes. On a l'impression qu'il y a un vivier aussi à Nantes avec cette cinématographie nouvelle, Jonas Trueba. Oui. Jonas Trueba, dont la filmographie a été déroulée depuis ses cours, etc., toujours dans le cadre de notre festival, avec des rencontres scolaires. Et puis, cet hommage à La Rochelle, qui est bienvenu et mérité à une façon de faire du cinéma qui est un cinéma d'auteur et beaucoup moins de grand public, mais où il y a une réflexion sur comment fait-on du cinéma aujourd'hui et comment on crée, parce que c'est vraiment de l'artisanat. Donc je dirais que ces deux personnes ont été particulièrement importantes depuis le mois de septembre. Et puis je dirais aussi Carla Simón, avec ce film primé à Berlin l'année dernière, Alcaraz, que nous avons eu avant le festival, qu'on a accompagné, puisque le Festival de cinéma espagnol est un festival à l'année, donc notre rôle c'est d'accompagner quand un film espagnol sort en salle, souvent en 14A, etc. Donc c'est vrai qu'Alcaraz aussi initie une tendance qu'on a vue dans le cinéma de ces derniers mois et années, qui est une mise en avant, un regard double, tout d'abord sur le choix, c'est que d'autres réalisatrices font, c'est-à-dire un retour aux sources, mais pas sous forme de nostalgie, mais de renouer avec un passé qui est en réalité la néo-ruralité. Mmh. Il y a un autre film très beau qui a été présenté hors festival parce qu'il est sorti juste un peu avant le festival, qui est El Agua, oui, d'Elena López Riera. Je prononce en espagnol parce que sinon c'est un peu plus compliqué. Et donc, ces deux films et bien d'autres, Churro, etc., ce sont des films de nouveaux réalisateurs ou de jeunes réalisateurs où vraiment, quand on cherche son identité, qui n'est pas du tout ni linguistique, ni politique, mais plutôt dans l'autofiction, on arrive à faire des films universels. Et ce thème de la néo-ruralité est comme un fil rouge qui va traverser ces deux dernières années du cinéma espagnol. Et je crois que c'est important, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres cinématographies, mais peut-être pas raconté par le même type de récit. Donc, il y a aussi le retour à la famille. Je dis retour parce que lorsque nous avons parlé du décès de Carlos Saura le 10 février, mm-hmm, et l'hommage qu'on lui a rendu de façon un petit peu, je dirais, minimaliste parce qu'il méritait que tout le festival soit consacré, on est revenu sur le fait que cette génération s'est dit redevable de Carlos Saura, c'est-à-dire la structure familiale telle que Carlos Saura l'a montrée continue aujourd'hui présente dans des films comme par exemple Alcaraz et El Agua et d'autres films. Et le film Cría Cuervos reste pour cette génération une sorte de film tutélaire. Et avec ce travail sur les enfants, oui, qu'on a toujours chroniqué comme très important dans le cinéma espagnol.
Oui, donc, et notamment l'œuvre de Carla Simón qui avait aussi... Alors, oui, Alcaraz, c'est Nos Soleils, je crois, en français.
Oui, en français,
et son précédent film, c'était Été 93, où effectivement, elle était très impliquée dans faire tourner des enfants, raconter... Enfin, c'est un film quasiment autobiographique, Été 93.
Oui,
et du coup, je me demandais, vous avez, quand vous parliez un petit peu de cette nouvelle génération de cinéastes, vous avez terminé par... deux noms de réalisatrices, donc Carla Simón dont on était en train de parler, et puis Elena López Riera. Est-ce que vous considérez que ces réalisatrices, ces femmes derrière la caméra, apportent un regard singulier dans le cinéma espagnol?
Moi, je pense qu'il y a d'autres cinéastes qui les ont précédées. Je pense que chaque fois qu'on parle des artistes qui émergent dans ce domaine de la culture, on a l'impression que c'est l'année zéro. Mais à part cette figure tutélaire dont on a parlé, Saura, je pense qu'il faut quand même situer ces cinéastes dans la lignée des cinéastes qui ont commencé à faire du cinéma dans les années 90. Et je vais parler, je ne citerai que deux, pardon, et Isabel Coixet, oui, et Icíar Bollaín, dont le film Maïsabel a été un film clé, alors que c'est un film politique, mais pas que politique, et qui a été vraiment fondamental dans l'année 22, par exemple, 23, sorti en France. Et donc, il y a une façon singulière, je dirais, de regarder le monde comme d'autres cinéastes d'autres pays le font. Je veux dire, ce sont des histoires toujours dans une autofiction. Il y a Pilar Palomero, que je pourrais citer, mm-hmm, avec la maternale ou Las Niñas. C'est un cinéma qui est, comme je disais, un retour sur soi. C'est de l'autofiction, mais pas dans la nostalgie. C'est-à-dire que quand on les interviewait à Nantes l'année dernière, en 22, en 23, finalement, c'est pas un regard en disant qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce qu'on était heureux quand on était enfant, du tout. Mm-hmm. C'est aussi à travers ce prisme, balayer à travers et avec un miroir la société espagnole. C'est-à-dire que, en parlant de ce qu'a fait ou ce qu'a configuré leur enfance, leur jeu, la solitude, le rapport intergénérationnel, là, je crois qu'il y a aussi un sujet très, très intéressant sur lequel on est en train de travailler au niveau de la recherche également. Ce regard intergénérationnel que, comme pour l'enfance, est propre du cinéma espagnol et que ces cinéastes arrivent, comme López Riera dans El Agua, très bien à mettre en avant. C'est-à-dire ce dialogue entre elle et qui construit aussi un monde au féminin, mais dont les hommes ne sont jamais absents, même si, et là je rappelle le cinéma d'Almodovar parce qu'il y a des liens aussi, c'est-à-dire la masculinité, elle est au second plan, par rapport à d'autres cinéastes ou d'autres cinématographies. Et là, je crois qu'il y a des liens tissés avec cette histoire du cinéma qui ne vient pas finalement de si loin.
Et est-ce que, par exemple, ces nouveaux réalisateurs et réalisatrices s'emparent comme leurs aînés de l'histoire contemporaine espagnole dans leurs films, du franquisme notamment, peut-être?
Oui, non. Ce qui est intéressant aussi, et je pense que depuis la génération des années 90, on peut citer Alex de la Iglesia, on peut citer donc Coisette, Boyaïn, Fernando León de Aranoa, et bon, je ne vais pas faire un catalogue parce que ce n'est pas intéressant pour vos auditeurs, mais la génération qui émerge dans les années 90 du XXe siècle en Espagne, c'est un cinéma qui est décliné au présent. Ils ont tellement d'histoires à raconter de leur périphérie propre et puis de leur influence aussi qui viennent de la bande dessinée et puis d'autres choses, que l'histoire est très très peu présente dans cette génération. D'abord parce qu'ils n'ont vécu que la fin du franquisme et parce qu'ils n'ont pas à découdre avec ce régime politique ni avec la guerre civile. Le seul qui a touché à ce sujet par le biais de, je dirais, du sarcasme ou vraiment de l'absurde, c'est Alex de la Iglesia dans Ballade triste de trompette. Mais ces cinéastes qui arrivent maintenant au cinéma ne parlent pas du franquisme, ne parlent pas des sujets politique avec un P majuscule, de ce qu'est la vie politique dans le pays. Mais par contre, moi je vais croire, je défends ça souvent, que ce cinéma est politique. Parce que quand on parle, comme dans le film d'ouverture, dans Les Marges, avec vraiment un nouveau réalisateur qui est en même temps aussi réalisateur qui était et qui est acteur de cinéma et acteur de théâtre et écrivain. Quand on voit par exemple ce film de Juan de Roboto en Los Marges, dans Les Marges, avec les exclusions, avec les expulsions des logements, avec la difficulté aussi pour les migrants de s'intégrer, c'est un cinéma politique, comme le cinéma espagnol a toujours été depuis même sous le franquisme, qui, dans Les Marges, et le titre de ce film est vraiment très très bon, en regardant dans Les Marges, on fait de la politique. Donc, on ne va pas s'occuper des débats parlementaires, on ne va pas s'occuper de la coalition majoritaire ou minoritaire. Mais finalement, la politique et le logement est une politique qui vient d'être approuvée là, avant les élections. Donc, c'est vrai qu'il est politique. Mais la guerre civile et le franquisme n'en font pas partie des sujets. Et je pense qu'il y a toujours un petit peu de ça. Lorsque Tosar, par exemple, présente un film d'action, Cellule 211, où c'est un film carcellaire, etc. Mais les prisonniers politiques sont parmi les prisonniers des théâtres. Donc, le franquisme s'invite d'une façon, je dirais, un peu singulière. Et puis, ben, comment ne pas citer le dernier Almodovar avec Madres Paralelas, oui, qui avait été un succès en France et qui a fait énormément de polémiques en Espagne, ce qui veut dire que les plaies ne sont pas fermées et que c'est toujours un débat qui est présent dans la société. Mais ce cinéaste, pour répondre enfin définitivement à votre question, ces thèmes-là ne sont pas présents dans les générations dont on a parlé.
Alors là, on a fait déjà un beau balayage des thématiques un petit peu de tous ces films et de tous les liens qu'on pouvait tresser. Est-ce qu'il y aurait aussi des liens à mettre en avant par rapport à l'esthétique, un regard, une façon de filmer cette réalité politique dont vous parlez? Est-ce que vous voyez des liens esthétiques à faire entre ces œuvres?
Je pense que finalement, les réalisatrices et réalisateurs qui arrivent au cinéma dans ces années depuis 2020, on peut dire, c'est des gens, contrairement aux réalisateurs des périodes précédentes, qui sortent des écoles de cinéma. Donc, Clara Roquette, par exemple, pour Liberta, et Carla Simón, etc. C'est-à-dire qu'ils ont été formés dans des écoles où Sorolla, dans des écoles de cinéma comme l'ECAM à Madrid, l'ESCAC en Catalogne, qui est une école dont sont sortis Bayona et bien d'autres, ou bien beaucoup d'entre eux font des formations à l'étranger. Donc, ce sont des gens qui ont, je dirais, un panel d'influence qui est vraiment universel. Et je crois que ça se sent. Il n'y a pas une façon de filmer, je vais dire, une façon d'utiliser la caméra qui soit foncièrement différente au niveau technique que l'autre cinématographie, parce que il y a une prégnance qui n'est pas simplement celle du cinéma espagnol. C'est une universalité. Et beaucoup ont passé de longs séjours aux États-Unis. Et bon, à l'instar par exemple de Coïssette qui tournait même en anglais, et d'autres cinéastes de génération également, sur le rôle, qui tournent en français et en espagnol. Donc je crois qu'il y a aussi, et ça c'est important pour le cinéma espagnol, bon, c'est une hypothèse de travail, donc comme toute hypothèse, peut-être que dans 2 mois, et je la mets en cause, mais je dirais que également c'est une nécessité toujours dans le cinéma, la culture espagnole, de sortir à l'extérieur. C'est une culture qui se regarde très peu le nombril et qui regarde très peu vers soi et vers sa culture. C'est une culture internationale.
Un grand, grand merci pour cet échange passionnant, Madame Martinez Vasseur. Pour les amoureux ou pour les curieux du cinéma espagnol, la prochaine édition du festival aura lieu, j'imagine, l'année prochaine, entre fin mars et début avril. Je ne sais pas si vous avez déjà des dates plus précises.
Oui, fin mars, dans la deuxième quinzaine du mois de mars.
D'accord. Et sinon, on peut encore retrouver une sélection de films présentés pendant l'édition de cette année dans le cadre de la programmation Playtime qui a lieu dans les salles associatives de Loire-Atlantique. Je signale également les conférences passionnantes que vous animez, Madame Martinez Vasseur, ainsi que les nombreux entretiens filmés avec les invités du festival. On peut retrouver toutes ces références, toutes ces ressources précieuses sur le site du Festival du cinéma espagnol de Nantes, www.cinespagnol-nantes.com. Et vous les retrouverez en lien dans le podcast. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.
Pas perdu puisque vous êtes à l'écoute de Caméra Subjective sur Radio G 101.5 FM. C'était un court extrait de la majestueuse bande originale du film Asbestas du cinéaste espagnol Rodrigo Sorogoyen. Cette bande originale a été composée par Olivier Arson et récompensée par un Goya cette année. On poursuit notre émission dans une toute autre tonalité puisque nous parlons à présent film pour la jeunesse en compagnie de Sandra, Lola et Zoé.
Nous sommes en pleine vacances scolaires. Voici une bonne occasion pour s'intéresser aux films adaptés aux enfants et préadolescents. Vous constaterez que j'utilise le terme « adapté à » et pas « destiné à ». Ceci afin de clarifier 3 vérités. Vérité numéro 1, il y a plein de chouettes films à montrer aux jeunes et pas que des dessins animés. Documentaires, films burlesques, comédies, films d'aventure, grands classiques, il y a de quoi faire. Vérité numéro 2, un dessin animé n'est pas forcément un film pour enfants. Désolée si j'enfonce une porte ouverte, mais tous les dessins animés ne sont pas visibles à n'importe quel âge. Pour exemple, quiconque a eu l'occasion de voir Perfect Blue de Satoshi Kon ou Valse avec Bachir de Harry Folman le sait, ces 2 longs métrages étant plutôt conseillés à partir de 14-15 ans. Vérité numéro 3, ce n'est pas parce qu'un film est adapté aux enfants qu'il n'est destiné qu'à eux. Et ne saurait être apprécié par un adulte. D'abord parce que certains films ont plusieurs niveaux de lecture, et ensuite et surtout parce que nous sommes tous de grands enfants, n'en déplaise aux grincheux trop sérieux, et qu'en tant qu'adulte, on a le droit d'écouter l'enfant qui est encore quelque part en nous et se laisser émerveiller. Et si vous vous demandez comment savoir si un film est adapté à l'âge de votre enfant, je vous conseille de consulter le site filmpourenfants.net. Tenu par un éducateur spécialisé, ce site très bien fait indique un âge minimum et un âge conseillé, explique l'histoire, les messages, les thèmes principaux et les moments pouvant être perçus comme difficiles. Tout ceci étant dit, je vous propose aujourd'hui de jouer tous ensemble, jeunes de tous âges que nous sommes dans ce studio ou chez vous derrière votre radio. Le quiz du jour se consacre aux films d'animation adaptés aux jeunes et fortement conseillés aux plus grands qui les entourent. Êtes-vous prête pour le quiz spécialement dédié aux films où on fait bouger des objets normalement inertes ?
Oui ! Oui !
Alors, ma première question, maintenant que vous êtes concentrés. Je vous invite à trouver un duo de personnages grâce à mes indices. Le premier est un inventeur génial, mais particulièrement tête en l'air, amateur de crackers et de fromage. Le deuxième est un chien intelligent et créatif qui aime lire les puzzles et le crochet. Ensemble, ils fabriquent toutes sortes de gadgets, comme le lit qui bascule pour lever le dormeur, la machine à s'habiller ou le lance-tartine. Mon tout est une série de films courts et longs, nous entraînant dans leurs aventures rocambolesques, puisque leurs inventions fonctionnent rarement comme prévu. La réponse est...
J'ai une réponse à ma gauche, je crois.
Ouais, voilà, c'est Gros Mythe.
Ouais, okay. Bien joué, Margot.
Moi, c'est des crackers, ça m'a mis sur la piste tout de suite.
Et l'humour so british, évidemment.
Of course.
Voilà, c'est Gros Mythe, donc de Nick Park pour les studios anglais Aardman Animations, qui ont aussi fait Chicken Run et Shaun le Mouton. Donc plutôt de l'animation en pâte à modeler, les personnages sont faits en plasticine. Question numéro 2. Est-ce que tout le monde est dans les starting blocks?
À fond.
Une question sonore. Dans quel film entend-on cette ritournelle?
Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Attention, Vanessa.
Alors?
Ah non, je suis pas sûre. J'aurais dit le livre de la jungle, mais je suis pas sûre.
Eh, bien joué. Effectivement, on entend le serpent Kaa qui essaie d'hypnotiser Mowgli, le petit dôme élevé par les loups dans la forêt. Heureusement que Bagheera, son ami la panthère noire, veille sur lui. Ce film est adapté d'un recueil de nouvelles paru en 1894 et écrit par Rudyard Kipling, qui est un écrivain britannique né en Inde, où il a donc puisé son inspiration pour le livre de la jungle. On rencontre aussi dans ce film Balou, l'ours bon vivant qui prend la vie comme elle vient, comme on le constate dans la célèbre chanson
« Il en faut
peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. »
Alors quand je vois le regard de Zoé d'une sur son bras.
Je te fais honte, Zoé.
Non.
Allez, une troisième question. Dans Fantastic Mr. Fox, film d'animation en volume de Wes Anderson, quel animal tient le rôle du protagoniste?
Oh, bah.
Oh, si! Ah, mais même moi qui n'ai pas vu le film, je... Ok.
Vas-y, Lisa.
Un renard?
Oui, bien joué.
Je ne vais pas pouvoir répondre, je ne l'ai pas vu, mais en fait, si.
Bah, si, on suit les aventures de Foxy qui revient à son ancienne vie de voleur et qui met en péril toute la communauté animale. C'est une adaptation d'un livre de Roald Dahl. Génialissime auteur britannique de livres jeunesse qui était notamment l'auteur de Charlie et la chocolaterie, Mathilda, Un conte peut en cacher un autre, etc. Pour la petite histoire, pour réaliser Fantastic Mr. Fox, 500 marionnettes et 150 décors ont été nécessaires. C'est un film en marionnettes, donc, où on a photographié une image à la fois. Il a fallu 621 450 photos pour faire ce film. Je me tourne maintenant vers nos chroniqueuses en herbe, Lola et Zoé. Nous vous avons demandé de nous parler d'un film que vous aimez particulièrement. Il me semble qu'on part du côté de l'Irlande. Alors Zoé, Lola, quel est le coup de cœur que vous souhaitez partager avec nos auditrices et auditeurs de tous âges?
Nous avons choisi de parler du dessin animé Le Peuple Loup, qui est le troisième film du réalisateur Tom Moore.
Après Le Chant de la Mer et Brandon et le Secret de Kells, qui sont des films que nous avons toutes les deux appréciés.
C'est l'histoire de la rencontre entre deux jeunes filles. L'une, Robin, fille de chasseur, vit dans la ville sous les ordres de messire protecteur.
L'autre, Meb, vit dans la forêt avec sa mère et une meute de loups. Tout de suite, un extrait de la bande-annonce en version française pour vous donner une idée.
C'est un de ces maudits Wolfwalkers.
Un Wolfwalker?
Attends!
ces êtres qui parlent avec les loups, avec ses pouvoirs magiques.
Tu peux sortir maintenant. On t'a repéré à l'odeur et tu en peste. Vous êtes un wolfwalker? T'es louve dans ton sommeil. Quoi? Et petite fille au réveil. Robin, il m'est arrivé quelque chose. Ça, je vois. C'est trop bien. T'es louve maintenant. Sois une louve. La forêt rétrécit chaque jour.
Malgré leurs différences, ces deux fillettes vont voir naître une amitié hors du commun.
Dans cette histoire pleine d'énergie et de magie, les méchants ne sont pas toujours ceux que l'on croit.
Ce que nous aimons beaucoup dans les films de Tom Moore, c'est qu'ils nous font voyager dans un univers irlandais.
Grâce aux dessins, aux musiques et aux histoires d'un autre temps.
Pour finir, voici une des musiques de ce magnifique film de Tom Moore et de Rose Stewart.
Running with the Wolves, chanté par Aurora.
Vous êtes toujours à l'écoute de Caméra Subjective sur Radio G et nous écoutions un extrait de la bande originale du film Le Peuple Loup, recommandé donc par Lola et Zoé. Et voici pour finir les dernières questions de Sandra qui teste depuis le début de l'émission nos connaissances en matière de cinéma d'animation.
Et voici venir la quatrième question. Tout le monde est concentré ?
Oui.
Dans quel film croise-t-on un arbre gigantesque ? Une vieille maison au milieu des rizières, des graines magiques, des noix rôdes, trois créatures poilues amatrices de glands, un chabus et deux petites filles énergiques et courageuses.
Ça, c'est comme Lola et Zoé, hein, j'imagine.
Énergiques et courageuses.
Alors là. Dans un univers japonisant, japonais.
Ah bah oui, on parle évidemment d'un film d'Hayao Miyazaki.
Avec un gros chat bleu. Je sais pas d'ailleurs si c'est un chat. Non, c'est pas un chat, c'est une créature bleue.
C'est un esprit de la forêt qui est invisible aux yeux des autres.
Ah, je sens que nous avons une réponse.
C'est un film qui célèbre les merveilles de la nature.
Kiki la petite sorcière?
Presque. C'est le même réalisateur.
Mon voisin Totoro?
Oui. Bah oui, je pouvais pas faire un quiz sur le cinéma d'animation sans parler d'Hayao Miyazaki, qui est un de mes cinéastes préférés. Et d'ailleurs, mon voisin Totoro, c'est lui qui a donné le logo du studio Ghibli, en fait. C'est le petit sigle du Ghibli. Question numéro 5. Là, on part en France. Quel personnage, d'une certaine manière, quel personnage de dessin animé est un garçon minuscule mais à l'intelligence et à la générosité hors du commun ? Notre héros n'est pas grand, mais il est vaillant.
Ah ! Kirikou.
Ouais.
J'étais partie sur Arthur les Minimoys, moi, vraiment.
Non, on fait du cinéma d'animation indépendant. Oui.
Alors, c'est effectivement le cinéaste français Michel Oslo qui fait découvrir au public Kirikou. Donc, Kirikou et la sorcière en 98, qui sera suivi par Kirikou et les bêtes sauvages et Kirikou et les hommes et les femmes. Et donc, ça s'inspire au plus près des cultures de l'Afrique de l'Ouest par le scénario, les graphismes, la musique et les doublages. Et c'est un film important dans l'histoire du cinéma d'animation français parce qu'il a permis le développement de l'industrie. Michel Oslo, quant à lui, on le connaît aussi pour ses films en papier découpé comme Prince et Princesse ou Les Contes de la Nuit. Et à chaque fois, il utilise un ton très original pour explorer d'autres cultures, comme aussi dans Azur et Asmar ou Dilili à Paris, que vous avez peut-être vu.
Il me semble que sur Kirikou et la série des Kirikou, en fait, il s'est inspiré de ses souvenirs parce qu'il a grandi ce qui s'appelait l'Afrique occidentale française à ce moment-là.
Absolument.
Et donc du coup souvent il revient
Il est inspiré par son enfance et en fait l'inspiration c'est un conte africain initialement.
D'accord, OK. Si je peux me permettre, je voulais rajouter sur Miyazaki comme je vois que nous avons un petit peu de temps. Ah, tu vas le rajouter.
Non, c'est que j'ai encore une question.
Alors vas-y.
La dernière question du quiz, une question musicale. De quel film est tirée cette chanson ?
En Amérique, il n'y a pas de chien, des buissons par des fromages. En Amérique, il n'y a pas de chat, quand j'y pense, ça me soulage.
Alors, est-ce que vous êtes retrouvés ?
Moi, j'ai pas du tout.
Fievel et le Nouveau Monde ?
Yes!
Waouh!
Effectivement, film de Don Bluth, qui est un cinéaste d'animation que j'aime beaucoup, qui est notamment l'auteur de Brisby et Le Secret de Nîmes, Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles, ou encore Anastasia, qu'on croit à tort être un film Disney. Et d'ailleurs, Fievel et le Nouveau Monde, en fait, a été encensé par la critique à sa sortie et obtient un grand succès en salle, atteignant des chiffres records à l'époque pour un dessin animé n'appartenant pas au studio Disney, justement. Ainsi s'achève le quiz. Ça se répartit pas mal au niveau des scores, hein, je trouve.
C'est vrai, un partout.
Moi, tant que j'ai pas perdu, ça va.
Est-ce que Margot, tu veux ajouter ta petite anecdote ?
Oui, je voulais ajouter ma petite anecdote sur Miyazaki. C'est qu'il me semble que Miyazaki, c'est le premier réalisateur de cinéma d'animation à avoir eu un prix important, puisqu'il avait eu l'Ours d'Or à Berlin avec Le Voyage de Chihiro. C'était la première fois qu'un film d'animation déjà était présenté en compétition dans un très grand festival international et que par ailleurs, il remportait la plus haute récompense. Donc ça a ouvert la voie à, d'une certaine manière, la vision d'un cinéma d'animation qui serait peut-être plus universel, moins cantonné au public jeune, même si je vais complètement dans ton sens. À mon avis, dès le départ, c'était un cinéma qui était destiné à tous les publics. Mais c'est vrai qu'avec cette récompense, ça a été aussi une façon de marquer l'importance du cinéma d'animation dans l'histoire du cinéma tout court.
Et parmi les films de Miyazaki, il y a vraiment des films pour tous les âges, parce que autant Totoro, on le voit à 4 ans, autant Princesse Mononoke, c'est plutôt à partir de 14 ans, quoi.
C'est vrai.
Merci pour cette anecdote, Margot.
D'avoir partagé avec nous. Je suis pas la seule fan de Miyazaki dans ce studio, je pense. Les filles aussi, Lola et Zoé Azakies.
Alors, c'est la fin de l'émission sur ces dernières questions. Nous vous remercions évidemment pour votre écoute. Merci ce soir à Lola et à Zoé pour cette première participation en tant que chroniqueuse. On vous raccueille quand vous voulez pour un nouveau conseil cinéma. C'était une super idée.
Et bravo pour votre professionnalisme, je tiens à dire.
Merci Sandra pour ce magnifique quiz. Et puis merci Lisa derrière la console qui lance de mieux en mieux tout ce qu'il faut.
Je me chauffe.
Si vous avez pris l'émission en cours de route, n'hésitez pas à l'écouter en podcast sur le site de Radio G. Toutes les infos sur les sujets évoqués ce jour seront bientôt disponibles à la page de l'émission. Quant à nous, eh bien rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. Et d'ici là, bonne soirée. Peut-être à l'écoute de Radio G.
Bonne soirée.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. chaussures de noces. Épouvantail d'abrubus, maître de chien, desquels j'ai hérité de tout et de rien. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, de rongeurs de freins, de tout sexe. Seigneur de châteaux renversés, cher à Dédale, desquels j'ai hérité de tout et que dalle. Tout, tout, que dalle. Que dalle tu. Je viens d'une longue lignée de zéro, de un, sentimentaux, sanguins, charmeurs de serpents, figure locale.